Tu sais, je m'intéresse beaucoup à l'environnement.
Moi, j'aime qu'on me parle de la santé ou de l'éducation.
Et les questions de l'entrepreneuriat me préoccupent beaucoup.
Et surtout, tout ce qui touche à la protection de l'enfant m'intéresse beaucoup.
Justement, pour parler de tout ça, l'UNICEF et Radio Okapi ont préparé ce programme, le magazine Bana Okapi, pour vous, avec de la musique aussi.
Bonjour chers auditeurs, auditrices et internautes. C'est l'heure pour nous de parler Bana Okapi. Ce magazine de jeunes et plus jeunes aborde aujourd'hui la problématique du manque d'eau potable dans les écoles. Quel risque pour les enfants ? En effet, plusieurs écoles de Béni manquent d'eau potable. À la place, certaines écoles ont construit des puits pour pallier à ce problème. Les enfants de la ville de Béni boivent cette eau durant toute la journée qu'ils passent à l'école. Quel risque courent les enfants en consommant cette eau des puits ? Pourquoi certains parents ne se préoccupent pas de ce que boivent leurs enfants à l'école autant qu'ils s'assurent de ce qu'ils mangent ? Dans ce magazine, vous suivrez les reportages, entretiens, des témoignages, mais surtout l'avis d'un pédiatre sur ce sujet. Ce magazine est présenté par Sarah Soumbela. Une mise en onde de Billy Landry Beto. Gisèle Cage est à la réalisation sous la supervision de Jean-Marc Matuaki Mofelele Dijano. Toute l'équipe Bana Okapi vous souhaite la bienvenue dans ce programme de Radio Okapi financé par l'UNICEF qui s'ouvre tout de suite. Okapi. Chers auditeurs et auditrices de ce programme de jeunes et plus jeunes, sachez que l'accès à l'eau potable reste un défi pour la majorité des écoles de Béni. Tandis que quelques établissements parviennent à se ravitailler aux bornes fontaines, communément appelées solidarité, d'autres n'ont aucun point d'eau. Cette pénurie entraîne de déplacements non surveillés des écoliers dans les quartiers à la recherche d'eau à boire. Guylaine Cassassia s'est rendue dans certaines écoles pour en savoir un peu plus. Voici son reportage.
Avec plus de 900 élèves, l'école primaire Munzinda ne dispose d'un quel dispositif d'approvisionnement en eau. Autrefois, elle pouvait utiliser l'eau de pluie recueillie dans les réservoirs, bien que non potable, pour répondre à certains besoins des élèves. Mais actuellement, l'usure des installations telles que les gouttières ne permet plus. Sassivi Tembo Saliki, directeur de cette école, explique.
On sait de notre école et pour le moment, on n'a pas de l'eau potable. On en a 20, mais actuellement, on n'en a plus. Nous avions des citernes et des robinets, mais tout devenait à panne. Oui, alors, il y a un plus moyen, il n'y a pas de l'eau. On s'approvisionnait en partir de nos bâtiments. C'est tout là où on profitait de l'eau des pluies et on pouvait y mettre des produits pour que ça devienne de l'eau potable et qu'on pouvait utiliser. Comme nous n'avons plus de gouttières et les autres à panne, on ne gagne plus de l'eau. Nos affaires souffrent. Nous sommes en train de nous approvisionner et à partir des écoles voisines. En fait, vous savez, quand on puise chez les voisins, ça gêne.
La situation est similaire à l'école primaire Vingazi. Pour les responsables, le directeur Pascal Kombi recommande aux parents d'envoyer les enfants avec une provision en eau.
Franchement, nous n'avons pas de l'eau potable au sein de notre école. C'est-à-dire, si on peut trouver de l'eau potable, sinon nous nous débrouillons autrement. Bien avant, c'est-à-dire l'année passée, on faisait recours à l'usine Power 7. On s'est ravitaillé chez Power 7, où on devrait chaque fois piser quelques bidons, uniquement pour servir les enfants malades. On servait les enfants malades, surtout avec l'eau qui venait de l'usine Power 7 l'année passée. Mais cette année, nous n'avons pas encore allé signer le contrat avec l'usine Power 7 pour se ravitailler.
C'est l'usine qui est à côté de notre école.
Mais sinon, ce que nous faisons pour l'instant, c'est-à-dire dès la rentrée, nous disons aux enseignants de chaque fois demander aux enfants eux-mêmes de venir avec quelques bouteilles communément appelées bolbo et surtout ceux-là qui se sentent malades. Aux enfants qui se sentent malades, nous leur disons de chaque fois venir avec leur bouteille propre. C'est ce que nous faisons pour l'instant, mais sinon, nous n'avons pas un peu d'eau. où nous devons chaque fois puiser de l'eau potable.
Cette pénurie d'eau entraîne des déplacements incontrôlés d'enfants. Alivik Sundiria, élève de la troisième année à l'école primaire Mundinda, ramène de l'eau de chez elle. En cas de manque à domicile, elle n'hésite pas à chercher dans les quartiers.
Dans notre école, il n'y a pas de l'eau à boire. Chacun, il quitte chez lui, à la maison, avec de l'eau à boire dans les bocaux. Oui, c'est maman, il me donne de l'eau pour venir avec ça à l'école. Quand il n'y a pas de l'eau à la maison, je viens, je pars boire l'eau là-bas chez mon oncle, c'est derrière cette école. S'il n'y a personne, je reste ça boire. Je bois une fois ici à l'école. J'ai dit à mes amis qu'on ne boit pas l'eau sale, c'est mal, ça amène les maladies, comme des malaria ou même la diarrhée.
Cependant, certaines écoles ne rencontrent pas ce problème. C'est le cas de l'école primaire Kassabignolé, approvisionnée en eau par forage grâce à l'ONG KUB il y a 2 ans. Ce dispositif permet à l'établissement de bien répondre aux besoins en eau de ses élèves, comme l'explique Pascal Paloukou Moussienene, enseignant à Kassabignolé.
Nous avons de l'eau dotée par le gouvernement à travers l'ONG KUB. Oui, ils nous ont fait quand même de l'eau. On a foré quelque part et c'est l'eau quand même qui est suffisante pour nos enfants. Ça en fait au moins 2 ans et demi comme ça. Avant, c'était catastrophique parce qu'on n'avait pas là où on peut puiser de l'eau. Et c'est après plaidoyer qu'on a vu que c'est nécessaire, que ces gens devraient maintenant venir en aide. Souvent, les enfants dérangés et parfois aussi il allait très loin pour aller chercher là où on peut se ravitailler à nous. Alors ça dérangeait. Et c'est pourquoi on avait eu les moments pour plaider et après on a vu quand même le gouvernement songer quand même à nous, en nous amenant l'ONG KUB et c'est lui qui avait construit pour nous. C'est parce que vous savez, à la maison, les enfants aiment utiliser de l'eau, surtout aux toilettes. Mais lorsqu'ils arrivent à l'école, c'était catastrophique. Mais à travers cette ONG, quand même, il y a eu changement. Et aussi, ça ne veut pas dire que c'est partout ici à Benou, il y a de l'eau. Il y en a, bon, par exemple ici, dans la concession, nous avons au moins 6 écoles comme ça. Mais c'est seulement l'EPA, Kassabignolé, qui a de l'eau à boire. Mais forêt, en tout cas pour l'eau d'abord. Ça, nous n'avons pas à dire, parce qu'il y en a à gogo quand même.
Dans la ville de Béni, de nombreuses écoles font face à une pénurie d'eau, compromettant ainsi l'hygiène de leurs installations sanitaires. Béni, Guylaine Kassassia, Radio Okapi. Okapi.
La carence d'eau potable met au mal les enseignements, surtout du degré élémentaire. C'est ce que fait savoir Gisèle Mambo-Mumbere, enseignante en première année au sein de l'école Mundinda. Mais comment elle gère ses écoliers? Gisèle Mambo-Mumbere nous explique.
Gisèle Mambo-Mumbere, bonjour.
Bonjour.
Ici chez vous, est-ce qu'il y a de l'eau potable en permanence?
Je peux dire non, parce que nous avons ici l'eau qui n'est pas propre. Mais nous nous débrouillons pour donner quand même aux enfants un peu d'eau.
Et l'eau là que vous donnez aux enfants, vous la prenez à partir d'où? Où est-ce que vous la trouvez?
Bon, on la trouve à partir de notre concession ici. Nous avons les forages ici à côté.
Et comment vous gérez les enfants? Est-ce que vous allez puiser? Est-ce que l'enfant, vous le faites sortir pour aller le faire boire ou c'est comment?
Non, non. Nous-mêmes, nous puisons. Comme nous sommes à première année, les enfants sont encore petits. L'enseignant lui-même va là-bas à la source pour puiser. Si je n'ai pas le temps d'y aller, j'envoie un enfant du degré terminal, 5e année, 6e année, il peut m'aider pour le faire.
Oui, vous pouvez juste nous partager un peu l'expérience de ces enfants. Au moins, l'enfant peut boire combien de fois par jour pendant les cours?
Pendant les cours, l'enfant peut boire même 3 fois, 4 fois ou plus.
Et quand il n'y a pas d'eau maintenant, hein, quand vous n'aviez pas d'eau, c'était comment?
C'est grave, hein? C'est difficile de les encadrer parce qu'ils nous dérangent beaucoup. Et quand il n'y a pas d'eau, on demande aux parents de donner à son enfant, à chaque enfant, de venir avec l'eau dans son bocal ou bien dans sa gourde, si possible.
Et donc à chaque fois que l'enfant a besoin de l'eau, c'est toi-même qui la lui donne?
Oui, je lui donne. Quand il n'y a pas de l'eau dans son cartable, moi-même je puise l'eau ici, je lui donne.
Et donc tu as déjà un bidon ou c'est comment ici?
Oui, j'ai déjà un bidon qui est là à côté. Je puise de l'eau chaque matin pour prévoir et pour donner aux enfants pendant les heures de cours.
Vous avez de gobelets ou vous utilisez même gobelets ou c'est comment, ou chacun c'est comment?
Bon, nous avons des gobelets, même si ce ne sont pas nombreux, mais quand même il y en a. On peut en avoir 5, 6 comme ça. Ce n'est pas un, c'est plus qu'un un.
Et après l'usage de chaque enfant, est-ce qu'il y a vraiment des mesures d'hygiène pour essayer de laver les gobelets après l'usage?
Après l'usage, moi-même je les nettoie, surtout après cours. Surtout après cours parce que l'État aussi nous presse de les nettoyer juste après l'usage là-bas. Mais on les fait après cours.
Comme vous dites, vous pouvez avoir le temps d'aller puiser ou autre chose. Vous avez un message aux parents?
Oui, oui, nous adressons ces messages aussi aux parents. Et surtout, à ce qui concerne de l'eau, si possible, chaque parent doit donner aussi à son enfant. Il doit acheter une gourde ou bien un bocal pour qu'il le donne à l'enfant. Ou bien il le donne de l'eau chaque matin pour venir avec ça ici à l'école. Ça peut nous aider aussi.
Gisèle Mbambou-Mumbere, nous vous remercions.
Merci beaucoup.
Non, ici, vous avez au moins un effectif de combien d'enfants?
J'ai ici en première année B 43 écoliers.
Et tous ces enfants-là, vous les gérez, chacun qui veut boire, donc vous enseignez au même moment en train de suivre le mouvement de chaque enfant qui veut boire, qui veut faire ceci?
Oui, nous sommes obligés de les faire et nous sommes obligés de suivre les mouvements de chaque enfant. Parce que dans chaque classe, il y a seulement une enseignante. Comme chez moi ici, je suis seule. Je dois aussi suivre tous les mouvements des enfants.
Merci Gisèle Mambou-Mumbere. Vous répondiez aux questions de Guylaine Kassassia. Une autre enseignante à présent, elle s'appelle Arche Lisso, elle est enseignante de la première au sein de l'école primaire Boikeni. Elle dit n'éprouver aucun problème pour abreuver ses écoliers car son établissement scolaire est approvisionné en eau potable. Il suffit que chaque enfant se présente avec son gobelet pour abreuver sa soif sans aucun problème. L'enseignante Arche Lisso nous explique au micro de Guylaine Kassassia.
Lisso Arche, bonjour.
Bonjour.
Tu peux nous dire, dans cette école, est-ce qu'il y a de l'eau propre?
Oui, dans cette école, nous avons l'eau potable que nous utilisons comme l'eau à boire et l'eau pour immecter des salles.
L'eau en question, vous l'avez eue à partir d'où?
Nous avons eu cette eau à partir de la régie des eaux.
Comment vous traitez cette eau? Est-ce que l'eau en question est propre vraiment? Vous la recevez dans des tanks ou comment ici?
Oui, cette eau est potable, encore propre. Nous utilisons ça et chaque enfant a le gobelet qu'ils utilisent pour consommer cette eau. Et nous avons aussi des bidons que nous utilisons dans chaque classe pour immecter et mettre aussi de l'eau comme à boire.
Et donc chaque enfant a son gobelet, chaque enfant vient avec son gobelet?
Oui, oui. Mais il y a ceux qui ont déjà perdu leur gobelet, comme la situation est précaire.
Et maintenant, pour ceux qui ont déjà perdu leur gobelet, comment est-ce que vous gérez cette situation?
Ils viennent avec leur flacon.
Et même si l'eau est propre, Comment est-ce que vous surveillez les enfants pour qu'ils ne la rendent pas impropre? Parce que l'enfant peut piser une eau propre, mais il va mal la gérer avant de la prendre.
Bon, avant de la prendre, il commence d'abord à conserver ça très bien et mettre aussi les bouchons.
Vous, en tant qu'enseignante, comment est-ce que vous les surveillez?
En cas de la récréation, même en classe, je suis là pour les contrôler et surveiller leurs objets qu'ils utilisent, comme gobelets, flacons, pour consommer ces tout. Je regarde ici, ces gobelets sont propres et les flacons aussi. S'ils sont sales, on utilise les savons et nous allons comme à la source pour puiser de l'eau et on commence d'abord à faire des vaisselles pour que ça puisse rester aussi propre.
Les enfants, comme ils sont là, l'enfant peut boire combien de fois par jour, par exemple? Ils sont des petits, hein, ceux de la première année, ils peuvent boire au moins combien de fois par jour?
Au moins 4 fois par jour. Comme ils utilisent ça presque à la récréation, avant la récréation, avant que nous puissions entrer en classe et voir même aussi quand nous sortons en classe.
Ils ne boivent pas ici pendant les cours?
Non, non. Quand nous sommes en classe, ce n'est pas le temps de boire de l'eau. Nous étudions. Et quand c'est la récréation, ils prennent leur flacon et les gobelets pour consommer cette eau. Et après la récréation, nous continuons avec les cours.
Philippe Soarcher, nous vous remercions.
Merci.
Allons à présent à la rencontre d'Ezekiel Mousalia qui se donnait une mission de demander aux parents 2 questions. La première, donnez-vous de l'eau à boire à vos enfants lorsqu'ils se rendent à l'école? Et puis, savez-vous que consommer de l'eau impropre est la cause de plusieurs maladies infantiles? Écoutons leur réponse au micro de Ezekiel Mousalia.
Vraiment, c'est un peu compliqué parce que, sauf qu'à la maison, on prend des dispositions pour que les enfants consomment de l'eau potable. Mais à l'école, c'est très compliqué parce que même les éducateurs, ils n'ont pas vraiment aussi possibilité soit d'engager. Vraiment, ce n'est pas facile puisque vu aussi notre salaire là, vraiment, ça ne tient pas. On a beaucoup d'enfants, on les scolarise, vraiment, ça ne tient pas.
Donc, donner de l'eau
jamais, il faut prendre de l'eau à la maison.
Oui,
c'est tout. Ce n'est pas la responsabilité de l'école. Quand il quitte, il boit. Quand il quitte, et puis quand il revient, il boit.
D'habitude, on demande seulement aux autorités de nous faire faveur, vraiment, qu'ils puissent nous créer vraiment des très bons emplois, afin que nous puissions aussi vraiment aider nos enfants d'une manière convenable.
Toutes ces choses-là, nous avions ignoré ça. Parce que nous savons qu'à l'école, l'école doit avoir de l'eau. Vraiment, les gens ne pensent pas surtout à ça. Par exemple, prenez de l'eau le matin. C'est très rare pour les parents de donner de l'eau à leurs enfants le matin. Je n'ai jamais vu les jeunes gens avec les enfants ici à cours de route avec de l'eau. Ils partent à l'école comme ça, sans de l'eau. Raison pour laquelle il y a assez de typhoïdes dans la ville. Surtout, ce n'est pas seulement les enfants. À Babenda, ou soit dans des hôpitaux, il y a assez de populations qui atteint souvent la typhoïde. Je ne comprends pas. La majorité des gens viennent acheter de l'eau potable de carton. Mais il y a toujours la typhoïde. Je ne comprends pas.
Le matin, après avoir mangé, après avoir pris le petit déjeuner, je leur remets une petite bouteille de 2 000 litres de l'eau bouillie. Parce qu'à l'école, on ne sait pas s'il y a de l'eau à boire. Normalement, c'est le soir. Après avoir mangé, après avoir terminé, leur maman bouille l'eau. Là, on met l'eau sur le feu et puis ça passe toute la nuit. Et le matin, on leur distribue ça. Vous savez, il y a la maladie hydrique qui provient de la consommation de l'eau sale. Vous savez, chez nous ici, nous faisons face à beaucoup de maladies. Entre autres, il y a la maladie hydrique, il y a les maladies des mains sales. En tant que parents, nous cherchons quand même à combattre, à faire juste le mieux que nous pouvons pour juste aider les enfants à veiller sur leur santé.
Il prend seulement de l'eau à la maison et puis il part à l'école. On ne sait pas si à l'école il y a de l'eau, on ne sait pas. Autre jour, les enfants prennent de l'eau, ils mettent dans un petit bouteille pour aller avec ça à l'école. Si ça termine, on ne sait pas. Si à l'école là-bas il y a de l'eau, on ne sait pas. Ça peut amener des maladies aux enfants. On peut s'y plier à l'école pour mettre de l'eau à l'école pour les enfants. Parce qu'on ne peut pas à la maison pour amener de l'eau à l'école. Ça ne peut pas suffire aux enfants, non? Ça peut même terminer. L'enfant peut avoir soif à l'école là-bas. On ne sait pas ce qu'il va amener à l'école. Ça ne peut pas suffire pour lui.
Tu sais, je m'intéresse beaucoup à l'environnement. Moi, j'aime qu'on me parle de la santé ou de l'éducation. Et les questions de l'entrepreneuriat me préoccupent beaucoup. Et surtout, tout ce qui touche à la protection de l'enfant m'intéresse beaucoup.
Justement, pour parler de tout ça, l'UNICEF et Radio Okapi ont préparé ce programme, le magazine Bana Okapi, pour vous, avec de la musique aussi.
Bienvenue à ce que nous prenons en cours des diffusions. Votre magazine Bana Okapi de ce jour vous parle du manque d'eau dans plusieurs écoles de Béni. Quel risque pour les enfants ? En effet, l'accès à l'eau potable reste un défi pour la majorité des écoles de Béni, car la plupart n'ont aucun point d'eau. Cette pénurie entraîne des déplacements non surveillés d'écoliers dans les quartiers à la recherche d'eau à boire. Malheureusement, ces élèves ne vérifient pas la qualité de l'eau qu'ils consomment. Dans cette deuxième partie, nous allons suivre l'avis de nos invités, incluant un pédiatre, qui vont nous parler des dangers de la consommation d'une eau impropre. Sarah Soumbel est à la présentation de ce magazine, mise en onde de Billy Landry-Beto, une réalisation de Gisèle Cage sous la supervision de Jean-Marc Matuaki Mofilele Dijano. Ce magazine est coproduit par Plamedimbi Yavanga Grasse, en Vezolo Rachel Kessé, Ezekiel Mouzali, André Kitenge, Jeff Opela, Grévis Salomo, Etienne Lissumbu, Guilaine Kassassia et Stanislas Diomi. Nous lançons cette seconde partie. Tel qu'annoncé à l'entrée de la deuxième partie, nous commençons directement avec nos invités. Notre premier invité aujourd'hui est Sassi Vitembo Saliki, directeur de l'école primaire Munzenda. Avec plus de 900 élèves, Sassi Vitembo Saliki nous décrit les difficultés rencontrées par son école en raison du manque d'eau potable. Il lance un appel urgent aux ONG pour une intervention. Glenn Kassassia s'entretient donc avec lui.
Sassi Vitembo Saliki, bonjour.
Bonjour.
Avez-vous de l'eau potable dans votre école?
On sait de notre école et pour le moment, on n'a pas de l'eau potable. On en avait, mais actuellement, on n'en a plus.
Vous en aviez, ça a disparu, c'était comment?
Nous avions des citernes et des robinets, mais tout devenait à panne. Oui, alors, il y a un plus moyen, il n'y a pas de l'eau.
Vous vous approvisionniez à partir d'où?
Bon, on s'approvisionnait en partir de nos bâtiments. C'est tout là où on profitait de l'eau des pluies et on pouvait y mettre des produits pour que ça devienne de l'eau potable et qu'on pouvait utiliser. Et comme nous n'avons plus de gouttières et les autres à panne, on ne gagne plus de l'eau, donc nous avons souffert. Nous sommes en train de nous approvisionner et à partir des écoles voisines.
Et alors, comment font vos élèves pour assouvir leur soif d'eau ici à l'école?
Bon, en fait, nous avons un établissement, une école voisine ici. Et là où nous sommes en train de nous approvisionner de l'eau, bon, en fait, vous savez, quand on puise chez les voisins, ça gêne le plus souvent. Mais il y a de l'eau à côté à moins de 100 mètres.
Mais comme vous parliez de l'eau, de pluie, avec des tanks, des citernes que vous utilisiez, est-ce que c'était propre à la consommation, même si on peut y mettre de produits?
On utilisait de l'eau, pas totalement pour boire, mais pour les autres activités. Et une quantité qu'on devrait utiliser pour boire, on devrait y mettre des produits.
Et maintenant, aujourd'hui, quand vous dites que vous n'avez pas d'eau, est-ce que vous veillez sur les enfants pour qu'ils ne puissent pas prendre n'importe quelle eau ici autour de vous?
Bien sûr, il y a des mesures, des précautions. Nous les interdisons de puiser n'importe où, parce que nous avons des écoles voisines. C'est là où nous avons l'assurance et il y a des robinets là où on puise de l'eau. Mais chez nous, en tout cas, on n'en a plus. Nous avons besoin vraiment de l'aide.
La responsabilité de ce que les élèves consomment en classe en termes d'eau revient à qui normalement? À l'école ou aux parents?
C'est compliqué actuellement. À la période où les parents payaient, hein, la période de frais scolaires, on pouvait prendre de cet argent pour trouver de l'eau, pour voir comment réhabiliter même des cuves, des citernes qui sont déjà en panne. Mais actuellement, nous sommes dans la période de gratuité. Et réparer nos citernes, réparer nos cuves et d'autres instruments nous devient compliqué. Donc, on manque où enlever de l'argent pour réparer nos gouttières, par exemple, nos citernes. Comme nous avons un montant très insuffisant et qui vient de la part du gouvernement, ça devient très difficile vraiment de réparer nos installations hygiéniques et nos installations d'eau.
Pour dire que ces derniers temps, c'est chaque parent qui doit s'occuper de son enfant. Si l'enfant a besoin de boire, il peut venir avec l'eau à partir de la maison.
Bon, en fait, on n'interdit pas un enfant de venir avec de l'eau propre de la maison. Mais pour l'école, pour ceux qui n'ont pas la capacité de gagner de l'eau ou de venir avec de l'eau potable, nous sommes obligés de nous soumettre au robinet de nos voisins.
Alors, Saliki Sassivi, avez-vous déjà connu des cas de maladie ici à l'école parce que l'enfant a consommé de l'eau impropre?
En tout cas, non, il n'y a pas de maladie qui attaque des enfants à propos de l'eau impropre. Et sauf qu'il y a d'autres cas de maladies qui attaquent les enfants.
Quoi, par exemple?
Nous avons les autres cas de maladies qui ne sont pas tellement graves. Les maux de tête, malaria, hein? Paludisme. Les paludismes, problèmes de vers intestinaux, bon, mais qui n'est pas causé seulement par de l'eau de l'école.
Hein. Alors, comme nous sommes en train de parler de problèmes d'eau potable, et au moins vous avez un effectif de combien d'enfants?
Nous avons l'effectif d'environ 900 enfants.
Et c'est depuis quand que votre eau ne fonctionne plus?
Ça fait plus ou moins 2 ans, hein, les installations ne fonctionnent plus.
2 ans, avec un effectif pareil, qu'est-ce que vous pensez? N'est-ce pas une façon de sacrifier les enfants? Surtout qu'ils ont besoin de boire à chaque instant.
Nous sommes en train de continuer à mener des recherches pour que nous puissions trouver de l'aide même auprès des humanitaires. Parce que ce sont eux de plus qui nous aident pour nos installations d'eau potable.
Si peut-être le fait que vous n'avez pas d'eau permanente ici, ça ne freine pas aussi la propreté de vos salles de classe?
Ça ne freine pas quand même fort, mais il y a des moments où nous allons puiser chez nos voisins alors qu'eux aussi ils sont en train de puiser. Ça pose problème, mais quand même on gagne de l'eau, mais difficilement.
Peut-être que les enfants partent aussi dérangés, ils peuvent aller même au quartier. Hein? Vous avez déjà eu même des problèmes avec les voisins ici au quartier?
Ça arrive quelquefois. Quand on ne gagne pas de l'eau chez les voisins, ils se débrouillent ailleurs. Et c'est ça ce qui nous pose des problèmes.
Avec tous les risques.
Avec tous les risques possibles.
Merci beaucoup.
C'est moi qui vous remercie, madame la journaliste.
Qu'est-ce que vous faites pour essayer de veiller sur les enfants pour qu'ils ne prennent pas de l'eau impropre, de l'eau sale?
Ah oui. Nous avons des mesures et des protections pour que les enfants ne prennent pas de l'eau sale. Parce que ici à l'école, nous avons déjà organisé des brigades d'élèves. Ils nous aident à surveiller les autres pour qu'ils ne prennent pas de l'eau sale. Et c'est cette brigade qui travaille fort avec les enseignants pour que les enfants soient protégés en propos de l'eau sale. Nous les surveillons bien. Et dans la concession, parce que nous les interdisons aussi de sortir de la concession, aller ailleurs pour qu'ils ne prennent pas de l'eau sale.
Pour finir, avez-vous un message à lancer aux parents sur ce sujet?
Pour les parents, je n'ai pas beaucoup à dire aux parents parce que, bon, vous savez, le gouvernement a interdit aux parents de payer à leurs enfants. Mais ils peuvent nous aider dans des recherches pour que nous puissions trouver quand même de l'eau potable. Ils peuvent nous aider aussi à contacter ceux qui peuvent être des humanitaires, par exemple. Ou à part même les humanitaires, les autres organisations qui peuvent venir nous aider pour que nous ayons de l'eau potable. Ça serait très prudent si chaque parent pouvait donner de l'eau à son enfant.
Merci beaucoup.
C'est moi qui vous remercie.
Okapi. Un deuxième invité, c'est le docteur Gaston Satiro Mukasa. Il est pédiatre à l'hôpital général de Beni, au Nord Kivu. Avec lui, nous allons parler du manque d'eau potable dans certaines écoles. Quel risque pour les enfants? Selon ce pédiatre, le milieu scolaire, et tout particulièrement celui de la petite enfance, est propice à la propagation de maladies infectieuses. Chaque enfant a le droit d'être scolarisé dans une école où il y a de l'eau potable pour qu'il ne soit pas exposé à des maladies hydriques. Docteur Gaston Satiro Mukasa l'explique dans cet entretien avec André Kitenge.
Docteur Gaston Satiro Mukasa, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Vous êtes pédiatre. Est-il important que l'école soit approvisionnée en eau potable?
Très, très important. Cette question est vraiment une question vraiment pertinente, je dirais. L'eau potable, c'est la vie, comme on dit. Et nous avons nos enfants dans les écoles. Et donc, même tout le monde, et pas seulement nos enfants, tous nous vivons, nous dépendons de l'eau potable. Et donc, surtout pendant cet âge de croissance, vraiment l'eau potable est requise dans nos écoles.
Est-ce que l'eau des puits est-elle potable, propre à la consommation aussi?
Ça dépend où le puits a été creusé. Si c'est dans un milieu qui n'est pas peuplé, cette eau peut justement être examinée et remplir les conditions d'une eau potable. Nous savons que l'eau potable doit être limpide, inodore et ne doit pas avoir aussi de goût. Alors c'est ça l'eau potable et donc nous avons aujourd'hui des analyses biochimiques que peuvent faire l'OCC, l'Office de contrôle, justement pour nous déterminer si l'eau est potable ou pas. Et donc, on ne peut pas consommer sans faire recours au service de l'OCC, je pense. Et donc, si le puits a été creusé dans un endroit sain, dans un endroit naturel qui est sain, inhabité, je pense qu'on requérait facilement de l'eau potable. Mais si c'est dans les milieux urbains, presque partout, les maisons sont là et les latrines sont construites, alors il est vraiment difficile d'avoir de l'eau potable dans un puits. À moins que le puits ne soit très très profond et que cette eau-là remplisse les qualités, comme je viens de le dire, inodore, incolore, inodore et sans goût.
Il y a possibilité que cette eau de puits soit traitée?
Tout à fait. Ça, c'est l'OCC qui, justement, peut nous donner, justement, les bonnes manières pour traiter cette eau. Mais dans nos milieux d'hôpital, nous chlorons l'eau. Donc, si on met le chlore, la dose requise, je ne sais pas, je ne la connais pas par cœur, mais c'est une petite quantité de chlore pour qu'on puisse recueillir de l'eau potable.
Qu'est-ce qui arrive lorsqu'un enfant consomme régulièrement de l'eau des puits non traitée?
Mais il est vraiment exposé parce que, vous savez, les maladies hydriques, la fois passée, nous avons parlé aussi des latrines. J'avais oublié de mentionner la maladie qui est vraiment redoutée et c'est le choléra, ok? Le choléra, lorsque l'on prend de l'eau non traitée, l'eau qui n'est pas potable, évidemment, on est exposé à être affecté par le choléra. Et ensuite, les autres maladies qui sont des maladies hydriques, et la diarrhée qui peut survenir dans le contexte d'une fièvre typhoïde, les parasitoses intestinales, etc., les amibiases aussi, etc., etc., tout ça, ce sont les maladies hydriques qui se manifestent par la diarrhée, qu'elles soient sanglantes ou pas, il y en a de ces diarrhées qui sont sanglantes et d'autres qui ne sont pas sanglantes. Dans les diarrhées sanglantes, nous signalons les amibiases, les shigelloses, ensuite les salmonelloses aussi, voilà.
Et un enfant de l'école primaire peut être à mesure de détecter si l'eau est potable ou non, si elle est tout petit souvent?
Je crois que non. Il faut vraiment les services recommandés pour qu'on puisse déclarer l'eau potable. Et donc, avant qu'on autorise les enfants à pouvoir consommer de l'eau d'une certaine source, il faut que cette source-là soit, dans le milieu urbain je parle, il faut que cette source-là soit d'abord examinée et qu'on puisse certifier que l'eau qui jaillit de cette source-là est une eau potable, donc consommable par la population.
Dans ce cas, comment savoir si l'eau est propre à la consommation?
Et justement, ce sont les qualités que nous disons. En première vue, nous avons dit que l'eau doit être incolore, elle doit être inodore, elle ne doit pas avoir un goût là, donc le goût doit être neutre, n'est-ce pas? Alors, si déjà les grandes propriétés là sont respectées, c'est maintenant qu'on peut aller dans l'analyse chimique pour essayer de détecter si les germes peuvent se retrouver dans cette eau-là. Et donc, l'analyse des laboratoires, on doit aussi faire ce que nous appelons la culture, donc essayer de cultiver un peu les gouttes d'eau pour voir si les germes peuvent pousser sur milliers de cultures. Et donc, je crois que de première vue, même les adultes, on peut se rendre compte, par exemple, dans nos villages, lorsque nous avons de l'eau des sources dans un milieu qui est naturellement sain, on sent directement que cette eau est propre, est limpide, elle n'a pas d'odeur et on la boit, on sent que vraiment, ça n'a pas un goût particulier, ça plutôt hein, la fraîcheur que ça vous apporte. Et donc ça, ce sont les qualités de l'eau potable. Et donc, si nous sommes loin d'un service qui peut nous donner une analyse chimique de cette eau-là, nous devons nous référer à ces grandes propriétés-là que je viens de citer.
Existe-t-il des médicaments pour purifier de l'eau? Si oui, recommandez-vous ce médicament à la population ou à certains consommateurs, notamment les tout-petits qui sont dans des écoles?
Je pense que ce n'est pas aux petits de mettre eux-mêmes les médicaments. C'est-à-dire, les grandes personnes, les responsables de l'école, doivent justement veiller à ce que l'eau qui est disponible, qui est donc à la portée de nos enfants, soit une eau qui soit déclarée potable. Et donc, c'est la responsabilité de l'école de s'engager à nous trouver de l'eau potable parce que, si cela n'est pas fait, les enfants sont appelés, ils ont tendance à boire toute eau qui, justement, hein, arrive à la portée de leurs mains, et parce que ce sont les premiers qui acquisent la soif. Et quand les enfants viennent sur toute une ligne, vous dites qu'ils veulent quoi dans une parcelle, ils demandent de l'eau à boire. Donc tout ça, ils veulent boire, mais ils vont terminer mon eau ici. Eh bien, donc, il faut voir comment les enfants cherchent vraiment à boire de l'eau. Donc, dans une école, si l'eau est disponible, alors cette eau doit d'abord être examinée par les responsables de l'école et appeler même un service qui peut certifier que cette eau est propre à la consommation. Quant aux médicaments, dire que les enfants eux-mêmes peuvent mettre les médicaments dans de l'eau, non, ça, je ne pense pas que ce soit une habitude saine. Je pense que ce sont les services recommandés qui peuvent justement nous faire ça. À moins que ce soit les adultes, si on dit qu'on recueille l'eau, qui a déjà les qualités qui peut-être laissent à désirer, les qualités qui peuvent laisser à désirer, il faut chlorer l'eau. Et normalement, on vend le chlore liquide dans les pharmacies et le mode d'emploi est souvent notifié sur les flacons.
Et souvent, on parle d'aquatab. Aquatab, c'est un médicament pour purifier de l'eau?
Peut-être que c'est une appellation commerciale, ça ne peut être que du chlore. Voilà.
Nous allons terminer, docteur. Quel conseil donnez-vous aux parents en ce qui concerne la qualité d'eau que doivent prendre les enfants?
Les parents doivent veiller à ce que leurs enfants puissent prendre de l'eau qu'on appelle vraiment potable, qui est propre à la consommation. Cette eau doit être claire, limpide, donc inodore, et ne doit pas avoir de goût. Et donc, ce sont les adultes qui doivent d'abord goûter cette eau-là, avant de permettre aux enfants de pouvoir la consommer.
Ça, c'était conseil pour les parents et pour les écoles?
Et d'abord, et ensuite pour les parents, parce que toutes les écoles ne sont pas à la hauteur de disponibiliser de l'eau potable. Justement, les enfants peuvent partir de la maison avec des gourdes d'eau potable pour les consommer pendant cette période qu'ils sont à l'école. Donc ça aussi, c'est une possibilité qui peut justement être utilisé par les parents parce que ça permettrait aux enfants de ne pas aller boire n'importe quelle eau qu'ils retrouveraient justement sur leur chemin. Je pense que c'est ça un peu par rapport aux parents. Et vous avez dit encore, si
aux
je
écoles,
me souviens.
Les
écoles, c'est d'aménager justement des sources d'eau potable.
Là où il n'y a pas d'eau potable.
Là où il n'y a pas d'eau potable, c'est donc trouver une méthode possible parce que les enfants cherchent toujours à boire. On peut leur demander de se doter des gourdes qui, de manière à ce qu'ils puissent amener de l'eau à partir de la maison. Ou bien si ça dépend, c'est chaque école qui doit pouvoir savoir comment disponibiliser justement de l'eau potable. Il existe aussi, s'ils en ont la capacité, l'achat de l'eau qui est déjà considérée comme potable. Nous avons de l'eau qui se commercialise. Et ça aussi, ça peut être un moyen, mais je pense qu'il est coûteux. Et donc, si c'est l'achat de l'eau potable, alors à ce moment-là, c'est l'école qui doit voir dans quelle mesure il peut disponibiliser cette eau-là. Mais je crois que la meilleure méthode, si l'école se trouve vraiment éloignée d'une source d'eau, c'est de demander tout simplement aux enfants qui ont tendance à boire à tout moment d'amener de l'eau à partir de la maison. Et ceux-là qui peuvent, ils peuvent acheter de l'eau dans le commerce.
Docteur Gaston Satiro Mukasa, merci.
Merci, monsieur le journaliste. Je suis heureux de m'avoir rencontré encore une fois.
Nous terminons avec ces plaidoyers adressés au gouvernement congolais afin d'améliorer les conditions d'études des enfants pour le protéger des éventuelles maladies. Nous recevons donc M. Serge Bondedi, secrétaire général et représentant juridique de l'ONG Imaye, qui est au téléphone. Bonjour M. Serge Bondedi.
Allô Madame Sarah, bonjour Madame Sarah.
Alors M. Serge, nous parlons aujourd'hui du manque d'eau potable dans certaines écoles de Béni. Quel risque pour les enfants? Vous connaissez un peu le sujet. Avez-vous un message à passer au gouvernement sur cette question?
Excusez, vous avez la question des points d'eau dans les écoles est une question très, 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 très capitale. L'école manque des points d'eau, ça ne peut que nous interpeller au plus haut point parce que la santé, ça touche à la santé des enfants en milieu scolaire, laquelle santé dépend énormément de l'existence et la qualité des lots. Parce que quand il y a des lots, on voit les latrines et on voit tous les services d'hygiène qui s'en suivent. Et il faut aussi dire que la question des points d'eau entre en compte dans ce qu'on appelle l'amélioration de l'environnement éducatif. C'est d'ailleurs une question qui est abordée même par la stratégie sectorielle de l'éducation et de la formation, parce que il a été préconisé qu'il faut mettre les enseignants et les élèves dans des conditions qui leur permettent d'inférer les compétences nécessaires et pertinentes aux apprentissages dans un cadre contextualisé qui facilite leur réflexion et leur participation à la formation. Et c'est dans ce sens que le gouvernement s'était même engagé depuis 2006 à améliorer l'environnement éducatif au niveau des établissements d'enseignement, donc aux écoles. Et par cet environnement des apprentissages, c'est un paquet. Vous avez les salles des classes, les auditoires, la localisation des latrines, l'eau qui revient et qui occupe une place très prépondérante, l'électricité. Bon, puisqu'ici nous parlons de l'eau, et les écoles qui manquent d'eau exposent les enfants qui fréquentent ces écoles à plusieurs risques. Et non seulement les enfants, même les enseignants qui utilisent la craie blanche pour enseigner. Il est recommandé qu'après avoir enseigné, il faut se laver les mains et ainsi de suite. Et nous sommes dans un pays où il y a toujours l'essence de maladies endémiques et contagieuses. Vous avez le maladie de Mensah, telle que la typhoïde, qui existe aussi dans le pays. Et c'est quand même alarmant que les écoles puissent manquer de points d'eau. Et voilà pourquoi, comme organisation de la société civile, organisation non gouvernementale qui œuvre dans le secteur de l'éducation, on ne peut que hausser les tons et demander au gouvernement de voir, de prendre à bras le corps cette situation et de se pencher là-dessus, et plus particulièrement les écoles des Béni, pour permettre donc aux enfants d'avoir un environnement qui permet vraiment à ceux qui étudient correctement, un environnement qui favorise, qui garantit leur état de santé, un environnement qui garantit les conditions hygiéniques, parce que ils ont des besoins plutôt physiologiques qui à tout moment ils ont besoin d'accéder aux latrines, mais s'il n'y a pas d'eau et ça pollue voire même l'environnement, parce que en ces moments-là les ouvriers de l'école ne savent même pas entretenir, assainir le milieu, les latrines, et cela impacte même sur l'air, la qualité de l'air au niveau de l'école.
La responsabilité de pourvoir en eau potable dans les écoles revient à qui? Aux parents, à l'État ou au chef d'établissement?
La loi cadre de l'enseignement incombe cette responsabilité aux gouverneurs et aux entités territoriales et décentralisées. Parce que la loi cadre de l'enseignement qui fixe comment est organisé l'enseignement au pays et donne aussi établit aussi les responsabilités. Et cette loi de 2014 mentionne clairement qu'il revient au gouvernement de prendre en charge un certain nombre de dépenses, et parmi ces dépenses, vous avez les équipements, l'énergie, en eau et en électricité. Donc si au niveau des écoles, il y a un problème en termes d'eau, le premier responsable, c'est le gouvernorat, donc le gouvernement provincial et les entités territoriales décentralisées.
Avez-vous un message à passer aux parents en ce qui concerne ces sujets?
Bon, vous savez, les parents doivent savoir que c'est d'abord à eux que revient. Et là, si je vois aussi le code de la famille, le premier responsable pour assurer la protection de leurs enfants. Mais les parents ont aussi un rôle à jouer parce qu'ils sont membres des comités de parents, le COPA, qui est une existence légale dans l'architecture scolaire congolaise. Si au niveau de l'école, il n'y a pas un point d'eau, bref, il n'y a pas de conditions favorables aux apprentissages, les parents, à travers leur comité, doivent se référer aux autorités de l'école. Et cela, à travers le mécanisme qui est mis en place, vous avez effectivement les assemblées des parents, et pour pouvoir poser ces problèmes. Et chaque école doit avoir un plan de développement. Chaque école doit avoir ce qu'on appelle le canevas budgétaire. Il faut que dans ces deux documents, s'il n'y a pas un point d'eau, s'il y a des problèmes de murs de clôture, ainsi de suite, puisque nous parlons des points d'eau, il faut faire inscrire cette question sur le plan de développement de l'école ou le canevas budgétaire de l'école, de manière en sorte qu'à l'issue de la réunion, assortie d'un plan opérationnel, savoir en quelle période ce point d'eau sera installé pour suivre de manière en sorte que les enfants étudie dans des conditions requises pour les apprentissages.
Monsieur Serge Bondedi, nous vous disons merci.
C'est à moi de vous remercier, Madame Sarah.
C'est la fin de votre magazine Bano Capi du jour. Le manque d'eau potable dans certaines écoles de Beni, quel risque pour les enfants, était au cœur de nos échanges. Nous avons été heureux de vous le présenter, espérant que cela vous a plu. Si vous avez manqué une partie de ce magazine, n'ayez crainte. Vous pouvez suivre son intégralité sur le site de Radio Capi, www.radiocapi.net, ou sur la page Facebook Bano Capi. Bonne suite de programme sur la fréquence de la paix.